Isabelle Durand, vous êtes secrétaire générale adjointe de la CNUSSET, la CNUSSET qui vient de sortir un nouveau rapport au sujet de l'impact de COVID-19. Mais que nous dit concrètement ce rapport de la CNUSSET qui indique que les répercussions économiques de la COVID-19 survivront longtemps à la crise sanitaire?
C'est d'analyser ce qui s'est passé ces 6 derniers mois et quelles ont été les tendances qui se sont marquées pendant ces premiers mois de crise économique liée à la pandémie et qu'est-ce que ça nous apprend sur le monde, la nouvelle normalité qui est en train d'émerger maintenant. Alors, c'est vrai que c'est une boîte à outils avec des chiffres, et donc il y a des chiffres qui sont terribles. La contraction globale de l'économie, moins 4,3% pour l'ensemble de l'économie mondiale, c'est gigantesque, même si ça cache des disparités où certains pays plongent jusqu'à moins 10, moins 12 parfois. D'autres, comme la Chine, se portent plutôt mieux. Et donc, c'est une moyenne, mais c'est une moyenne qui affecte tout le monde, sauf que, et c'est la caractéristique de cette crise, c'est qu'évidemment, elle est assez asymétrique. Les pays qui étaient déjà dans une situation difficile antérieurement sur des aspects macroéconomiques ou autres sont ceux qui aujourd'hui auront le plus de mal à se redresser. Et je vous donne un chiffre que je trouve très intéressant. Si on regarde les capacités des pays développés ou des pays les mieux équipés à aider ou à soutenir leurs populations les plus fragiles ou leurs secteurs les plus en danger, on voit que c'est un montant de 1 800 dollars par habitant dans le pays développé type, si je peux dire, et de 18 dollars dans un PMA type, un pays moins avancé. Autrement dit, il y a évidemment un énorme gap entre la capacité qu'ont les pays à supporter ou à aider ou à soutenir dans cette période difficile, les uns par rapport aux autres. Et c'est cette asymétrie qui est évidemment terriblement préoccupante. On voit par ailleurs que, l'aide au développement est aussi en perte de vitesse, si je peux dire, et on évalue la diminution de l'aide au développement à environ moins 7% pour l'année 2020 et moins 20% de moins dans ce qu'on appelle, dans le mauvais français, le remittances, donc tout ce que les migrants envoient ou retournent comme fonds dans leur pays, 20% de moins en 2020. Et donc, c'est clair qu'on imagine aussi que dans ces pays, ils ne sont pas tous, non seulement pas tous égaux dans leurs chiffres économiques, mais c'est aussi certains secteurs ou certains publics particuliers qui sont très affectés. C'est souvent d'ailleurs ceux qui ont été moins affectés par le virus et qui sont plus affectés par les aspects économiques, comme par exemple les pays qui ont mis, qui ont basé leur économie sur le tourisme, sont aujourd'hui évidemment dans une situation catastrophique parce que si je prends par exemple les petits pays insulaires et certains des Caraïbes ou d'ailleurs qui ont fait du tourisme leur point fort, eux avec 75% d'arrivées de touristes en moins sont dans une situation catastrophique pour toutes les activités que génère le tourisme dans toute la chaîne, je dirais, d'approvisionnement du tourisme.
Vous avez souligné tantôt l'impact sur le tourisme, mais de façon générale, le rapport avertit que la crise pourrait envoyer 130 millions de personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté. Ça nous renseigne quoi sur l'état du monde? Parce que déjà, la Banque mondiale parlait de 150 millions.
Alors, ça nous renseigne sur quelque chose à la fois que nous savions, c'est-à-dire que le taux d'inégalité, le taux de pauvreté et surtout le fameux agenda 2030 qui nous tient à cœur des objectifs du développement durable, subit un terrible recul avec cette crise et le nombre de personnes, donc c'est 130 millions et c'est 70 millions en plus pour l'année 2020, qui vont basculer, si je peux dire, dans l'extrême pauvreté, ça nous indique ou ça nous renseigne sur le fait que les inégalités vont croissant, évidemment, et que la question de la pauvreté ou l'éradication de la pauvreté, qui est l'un des objectifs du développement durable, on en est loin. On en est loin et on est plutôt en train de reculer que d'avancer. Et donc, la nécessité de mettre en place de façon durable et pas de façon temporaire, des filets de sécurité, des filets sociaux, de protection des populations les plus fragiles est sans doute une des plus grandes priorités si on veut anticiper d'autres crises ou d'autres situations dans lesquelles les plus pauvres payent un prix tout à fait disproportionné.
Ces 130 millions de pauvres supplémentaires, c'est dans quelle région du monde? C'est en Afrique subsaharienne? C'est dans une partie de l'Asie?
Alors, c'est essentiellement en Afrique subsaharienne et un peu en Asie du Sud-Est, essentiellement. Mais c'est vrai aussi que même dans des pays plus développés ou en meilleure situation de départ, il y a aussi d'immenses inégalités. Elles sont d'une autre nature, mais elles sont aussi, le gap entre les plus pauvres et les plus riches est également très grand. L'un des pays plus développés ou en meilleure situation économique, les marges budgétaires permettent d'offrir à ces populations en grand danger de pauvreté des soutiens qui ne sont pas idéaux, mais qui sont en tout cas, qui ne font pas basculer les gens dans l'extrême pauvreté, ce qui n'est pas la même chose que la pauvreté.
Mais de façon générale, la pauvreté mondiale a augmenté pour la première fois depuis la crise financière de 1998. Est-ce à dire que COVID-19 a réussi à remettre en cause tous les acquis obtenus en 20 ans?
D'une certaine façon, en tout cas sur la pauvreté, oui. C'est clair que c'est un basculement terrible et qui doit nous interroger tous, toute la communauté internationale, sur la manière non seulement de répondre à cette crise de façon immédiate et urgente, mais aussi les systèmes et les systèmes qui font que ces gens étaient déjà dans une situation précaire avant Covid et basculent dans l'extrême pauvreté. C'est ça, c'est le basculement qui est terriblement problématique. Passer d'une situation d'une certaine précarité à l'extrême pauvreté, le redressement est beaucoup plus difficile. Et donc, ça doit être un point majeur pour le redressement ou ce qu'on appelle les plans de relance que nous devons soutenir du point de vue de la communauté internationale.
Vous avez relevé tantôt le défi des filets de sécurité, mais en l'absence de ces filets de sécurité, doit-on s'attendre au pire, par exemple, comme des émeutes de la faim qu'on a connues certaines années en Afrique?
C'est difficile évidemment de prévoir, mais c'est vrai que si dans des situations d'extrême pauvreté, si on ajoute à ça, par exemple, un événement climatique extrême, une grande sécheresse, des inondations, des récoltes qui sont perdues, c'est clair qu'on pourrait avoir à des endroits donnés, il y a un problème de sécurité alimentaire possible. Et donc, dès lors, peut-être des meutes de la faim, mais qui seront plutôt des questions localisées parce que surviendrait un problème supplémentaire qui ajouterait encore à la situation précaire et dramatique dans laquelle se trouveront ces 130 millions de personnes. Et donc, c'est clair que oui, il y a un risque. Donc, on doit vraiment concentrer nos efforts, dans l'urgence en tout cas, pour résoudre ou tenter de résoudre ces problèmes. Mais répondre à cette urgence de pauvreté doit nous amener immédiatement à penser à la diversification économique, à la moindre dépendance vis-à-vis des ressources de base, doit nous faire penser que l'économie numérique est quand même l'économie d'aujourd'hui et de demain, et que si simplement on est uniquement occupé à travailler, ce qui est totalement légitime et qui est une grande priorité sur les questions de pauvreté, on doit en même temps veiller à ce que les pays dans lesquels vivent ces populations ne soient pas exclus, je dirais pour toujours ou pour très longtemps encore, de l'économie numérique et de ses bénéfices. On doit pouvoir revoir nos chaînes de valeur, essayer d'avoir des chaînes de valeur plus courtes, plus régionales. La lutte contre la pauvreté, ça ne se décide pas, ça ne se décrète pas seulement au niveau national. Il faut aussi que ça percole jusque dans les communautés locales. Et là, on a besoin d'acteurs qui sont soutenus dans les communautés locales pour vraiment mettre en place des mécanismes plus durables de lutte contre la pauvreté et pas seulement, je dirais, par de l'aide humanitaire immédiate.
D'ailleurs, dans ces pistes de réflexion, la CNUSSED a abordé la question de la dette. En quoi c'est important pour les PMA et surtout les pays africains?
La dette, c'était déjà avant le Covid un fardeau terriblement lourd, le service de la dette pour beaucoup de ces PMA. Alors, on a déjà fait un petit pas, si je peux dire, j'ai dit bien un petit pas. Il est positif, mais il est trop petit en termes de moratoire sur la dette. Parce qu'un moratoire, c'est bien, ça libère un peu de moyens. Mais un moratoire, ça veut dire que X mois après, vous vous retrouvez exactement dans la même situation à devoir rembourser tout ce que vous n'avez pas remboursé. Autrement dit, ça ne solutionne rien de façon durable. Donc, on doit aller aujourd'hui vers des annulations et des remises de dettes complètes et pas seulement des aménagements ou des moratoires. Même si je ne vais pas considérer que ces moratoires, ce n'est pas une bonne chose. Hein. C'est certainement une très bonne chose.
Dernière question, Madame Durand. La CNUSSED a établi une feuille de route pour un développement commercial et économique plus inclusif. Ce serait quoi la mesure prioritaire à prendre dans les semaines, dans les mois à venir?
Tout est prioritaire et tout se tient, parce que c'est ce que ce Covid nous montre, c'est que les questions sont éminemment interdépendantes et interconnectées. Donc, c'est très difficile d'imaginer qu'il y a une mesure qui est la plus urgente et la plus prioritaire, là, tout de suite, maintenant. Mais je pense en tout cas que la question de la dette est certainement une des questions prioritaires, ne fût-ce que pour donner un tout petit peu d'air, je dirais, aux pays en développement ou aux pays les plus affectés, pour pouvoir faire des choses différentes. Deuxièmement, je pense qu'il faut travailler sur la question des capacités productives de ces pays. Ça, c'est urgent, parce qu'il faut qu'elles puissent diversifier et concentrer leurs énergies à produire elles-mêmes. Et en ce sens de l'intégration, ce n'est pas du protectionnisme national, mais une certaine intégration régionale, une capacité à protéger certains biens communs nationaux. Je n'appelle pas ça du protectionnisme, j'appelle ça quelque chose, une manière de de protéger ses propres ressources pour les mettre au service de ses populations. Et donc, en ce sens, je pense que, d'une part, les questions liées au rétrécissement des chaînes de valeur qui doivent être plus régionales et qui doivent s'inscrire sur des priorités régionales, c'est quelque chose qui est très important et relativement urgent. Alors, ça ne se met pas en place demain matin, mais je pense que cette tendance-là, par exemple, dans le cadre de la zone de libre-échange africaine, c'est très important qu'à l'échelon continental, mais aussi à l'échelon sous-régional continental, si je peux dire, on puisse développer des coopérations sur les barrières tarifaires, sur un certain nombre de domaines où on peut faire mieux dans un marché plus petit, mieux maîtrisé, et dans lequel les gouvernements peuvent détenir plus de leviers. Parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où, trop souvent dans l'économie mondialisée, on a perdu le contrôle ou la capacité de pouvoir orienter son économie. En plus, je pense qu'il faut que ces pays investissent. Quand je dis investir, ce n'est pas nécessairement financièrement, il faut parfois les y aider par l'infrastructure dans l'économie numérique, parce qu'on a bien vu que la distanciation sociale a amené un boom, je dirais, du digital. Alors, le digital, ce n'est pas que la concentration dans les mains de quelques grands groupes, de quelques grandes plateformes, c'est aussi la possibilité, je le vois dans des pays comme le Bénin ou dans d'autres pays qui sont pris dans des pays qui ne sont pas toujours très, très bien connectés, il y a une vraie volonté de mettre l'économie numérique au service de la population. Ce n'est pas seulement pour acheter des chemises à Amazon, c'est pour pouvoir réellement développer des marchés locaux ou régionaux et de les exposer, si je peux dire, à des marchés plus larges via la numérisation. C'est aussi dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Je pense qu'il faut deux dernières choses, l'économie plus verte et une économie qui compte sur ses femmes. On doit pouvoir avoir une croissance ou une relance qui soit une relance à la fois plus verte, plus digitale, plus régionale, équitable sur des capacités productives plus diversifiées dans les pays en développement.
Madame Durand, merci beaucoup. Merci infiniment.